Alfred de Musset, Emmeline. Vous vous souvenez sans doute, madame, du mariage de mademoiselle Duval. Quoi qu'on n'en ait parlé qu'un jour à Paris, comme on y parle de tout, ce fut un événement dans un certain monde. Si ma mémoire est bonne, c'était en 1825. Mademoiselle Duval sortait du couvent à 18 ans avec 80 000 livres de rente. Monsieur de Marsan, qui l'épousa, n'avait que son titre et quelques espérances d'arriver un jour à la pairie après la mort de son oncle, espérance que la révolution de juillet a détruite. Du reste, point de fortune et d'assez grand désordre de jeunesse. Il quitta, dit-on, le troisième étage d'une maison garnie pour conduire mademoiselle Duval à Saint-Roch et rentrer avec elle dans un des plus beaux hôtels du faubourg Saint-Honoré. Cette étrange alliance, faite en apparence à la légère, donna lieu à 1000 interprétations dont pas une ne fut vraie, parce que pas une n'était simple et qu'on voulut trouver à toute force une cause extraordinaire, un fait inusité. Quelques détails nécessaires pour expliquer la chose vous donneront en même temps une idée de notre héroïne. Après avoir été l'enfant du plus turbulent, le plus studieux, maladif et entêté qu'il y eut au monde, Emmeline était devenue, à 15 ans, une jeune fille au teint blanc et rose, grande, élancée et d'un caractère indépendant. Elle avait l'humeur d'une égalité incomparable et une grande insouciance, ne montrant de volonté qu'en ce qui touchait son cœur. Elle ne connaissait aucune contrainte. Toujours seule dans son cabinet, elle n'avait guère pour le travail d'autres règles que son bon plaisir. Sa mère, qui la connaissait et savait l'aimer, avait exigé pour elle cette liberté dans laquelle il y avait quelques compensations au manque de direction. Car un goût naturel de l'étude et l'ardeur de l'intelligence sont les meilleurs maîtres pour les esprits bien nés. Il entrait autant de sérieux que de gaieté dans celui d'Emmeline. Mais son âge rendait cette dernière qualité plus saillante. Avec beaucoup de penchant à la réflexion, elle coupait court aux plus graves méditations par une plaisanterie et dès lors n'envisageait plus que le côté comique de son sujet. On l'entendait rire aux éclats toute seule et il lui arrivait au couvent de réveiller sa voisine au milieu de la nuit par sa gaieté bruyante. Son imagination, très flexible, paraissait susceptible d'une teinte d'enthousiasme. Elle passait ses journées à dessiner ou à écrire. Si un air de son goût lui venait en tête, elle quittait tout aussitôt pour se mettre au piano et se jouer 100 fois l'air favori dans tous les tons. Elle était discrète et nullement confiante, n'avait point d'épanchement d'amitié, une sorte de pudeur, s'opposant en elle à l'expression parlée de ses sentiments. Elle aimait à résoudre elle-même les petits problèmes qui dans ce monde s'offrent à chaque pas. Elle se donnait ainsi des plaisirs assez étranges que certes les gens qui l'entouraient ne soupçonnaient pas. Mais sa curiosité avait toujours pour borne un certain respect d'elle-même, et en voici un exemple, entre autres. Elle étudiait toute la journée dans une salle où se trouvait une grande bibliothèque vitrée, contenant 3000 volumes environ. La clé était à la serrure, mais Emmeline avait promis de ne point y toucher. Elle garda toujours scrupuleusement sa promesse, et il y avait quelque mérite dans cette conduite, car elle avait la rage de tout apprendre. Ce qui n'était pas défendu, c'était de dévorer les livres des yeux. Aussi en savait-elle tous les titres par cœur. Elle parcourait successivement tous les rayons et pour atteindre les plus élevés, plantait une chaise sur la table. Les yeux fermés, elle lui mit la main sur le volume qu'on lui aurait demandé. Elle affectionnait les auteurs par les titres de leurs ouvrages et de cette façon, elle a eu de terribles mécontes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dans cette salle était une petite table près d'une grande croisée qui dominait une cour assez sombre. L'exclamation d'un ami de sa mère fit apercevoir Emmeline de la tristesse de sa chambre. Elle n'avait jamais ressenti l'influence des objets extérieurs sur son humeur. Les gens qui attachent de l'importance à ce qui compose le bien-être matériel étaient classés par elle dans une catégorie de maniaques. Toujours nu-tête, les cheveux en désordre, narguant le vent, le soleil, jamais plus contente que lorsqu'elle rentrait mouillée par la pluie, elle se livrait à la campagne, à tous les exercices violents, comme si là eût été toute sa vie. 7 ou 8 heures à cheval, au galop, était un jeu pour elle. À pied, elle défiait tout le monde. Elle courait, grimpait aux arbres, et si on ne marchait pas sur les parapets plutôt que sur les quais, si on ne détestait pas les escaliers sur leurs rampes, elle pensait que c'était par respect humain. Par-dessus tout, elle aimait chez sa mère à s'échapper seule, à regarder dans la campagne et ne voir personne. Ce goût d'enfant pour la solitude et le plaisir qu'elle prenait à sortir par des temps affreux tenait, disait-elle, à ce qu'elle était sûre qu'alors on ne viendrait pas la chercher en se promenant. Toujours entraînée par cette bizarre idée, à ses risques et périls, elle se mettait dans un bateau en pleine eau et sortait ainsi du parc que la rivière traversait sans se demander où elle aborderait. Mais comment lui laissait-on courir tant de dangers? Oh, je ne me chargerai pas de vous l'expliquer. Et au milieu de ses folies, Emmeline était railleuse. Elle avait un oncle tout rond, avec un rire bête, excellent homme. Elle lui avait persuadé que, de figure et d'esprit, elle était tout son portrait, et cela avec des raisons à faire rire un mort. De là, le digne oncle avait conçu pour sa nièce une tendresse sans bornes. Elle jouait avec lui comme avec un enfant, lui sautait au cou quand il arrivait, lui grimpait sur les épaules, et jusqu'à quel âge? Oh, c'est ce que je ne vous dirai pas non plus. Le plus grand amusement de la petite espiègle était de faire faire à ce personnage, assez grave du reste, des lectures à haute voix. C'était difficile, attendu qu'il trouvait que les livres n'avaient aucun sens, et cela s'expliquait par sa façon de ponctuer. Il respirait au milieu des phrases, n'ayant pour guide que la mesure de son souffle. Vous jugez quel galimatias, et l'enfant de rire à se pâmer. Je suis obligé d'ajouter qu'au théâtre, elle en faisait autant pendant les tragédies, mais qu'elle trouvait quelquefois moyen d'être émue aux comédies les plus gaies. Pardonnez, madame, ces détails périls qui, après tout, ne peignent qu'un enfant gâté. Mais il faut que vous compreniez qu'un pareil caractère devrait plus tard agir à sa façon et non à celle de tout le monde. À 16 ans, l'oncle en question, en allant en Suisse, emmena Emmeline. À l'aspect des montagnes, on crut qu'elle perdait la raison tant ses transports de joie apparurent vifs. Elle criait, s'élançait de la calèche. Il fallait qu'elle allât plonger son petit visage dans les sources qui s'échappaient des rochers. Elle voulait gravir des pics ou descendre jusqu'au torrent dans les précipices. Elle ramassait des pierres, arrachait la mousse. Entrée un jour dans un chalet, elle n'en voulait plus sortir. Il fallut presque l'enlever de force. Et lorsqu'elle fut remontée en voiture, elle cria en pleurant aux paysans. « Oh, mes amis, vous me laissez partir !» Nulle trace de coquetterie n'avait encore paru en elle lorsqu'elle entra dans le monde. Est-ce un mal de se trouver lancé dans la vie sans grande maxime en portefeuille? Je le sais. D'autre part, n'arrive-t-il pas souvent de tomber dans un danger en voulant l'éviter? Témoins ces pauvres personnes auxquelles on a fait de si terribles peintures de l'amour, qu'elles entrent dans un salon, les cordes du cœur tendues par la crainte, et qu'au plus léger soupir, elles résonnent comme des harpes. Quant à l'amour, Emmeline était encore fort ignorante sur ce sujet. Elle avait lu quelques romans, où elle avait choisi une collection de ce qu'elle nommait des niaiseries sentimentales. chapitre qu'elle traitait volontiers d'une façon divertissante. Elle s'était promis de vivre uniquement en spectateur, sans nul souci de sa tournure, de sa figure ni de son esprit. Devait-elle aller au bal? Elle posait sur sa tête une fleur, sans s'inquiéter de l'effet de sa coiffure, endossait une robe de gaze comme un costume de chasse, et sans se mirer les trois quarts du temps, partait joyeuse. Vous sentez qu'avec sa fortune, car du vivant de sa mère, sa dot était considérable, on lui proposait tous les jours des parties. Elle ne refusait aucun sans examen. Mais ces examens successifs n'étaient pour elle que l'occasion d'une galerie de caricatures. Elle toisait les gens de la tête aux pieds avec plus d'assurance qu'on en a ordinairement à son âge. Puis le soir, enfermée avec ses bonnes amies, elle leur donnait une représentation de l'entrevue du matin. Son talent naturel pour l'imitation rendait cette scène d'un comique achevé. Celui-là avait l'air embarrassé, celui-ci était fat, l'un parlait du nez, l'autre saluait de travers. Tenant à la main le chapeau de son oncle, elle entrait, s'asseyait, causait de la pluie et du beau temps comme à une première visite, en venait peu à peu à effleurer la question matrimoniale et, quittant brusquement son rôle, éclatait de rire, réponse décisive qu'on pouvait porter à ses prétendants. Un jour arriva, cependant, où elle se trouva devant son miroir, arrangeant ses fleurs avec un peu plus d'art que de coutume. Elle était ce jour-là d'un grand dîner, et sa femme de chambre lui avait mis une robe neuve qui ne lui parut pas de bon goût. Un vieil air d'opéra avec lequel on l'avait bercé lui revint en tête. Aux amants, lorsqu'on cherche à plaire, on est bien près de s'enflammer. L'application qu'elle se fit de ces paroles la plongea tout à coup dans un émoi singulier. Elle demeura rêveuse tout le soir, et pour la première fois, on la trouva triste. Monsieur de Marsan arrivait alors de Strasbourg, où était son régiment. C'était un des plus beaux hommes qu'on pût voir, avec cet air fier et un peu violent que vous lui connaissez. Je ne sais s'il était du dîner où on lui avait paru la robe neuve, mais il fut prié pour une partie de chasse chez Madame Duval, qui avait une fort belle terre près de Fontainebleau. Emmeline était de cette partie. Au moment d'entrer dans le bois, le bruit du corps fit emporter le cheval qu'elle montait. Habituée aux caprices de l'animal, elle voulut l'en punir après l'avoir calmé. Un coup de cravache donné trop vivement faillit lui coûter la vie. Le cheval ombrageux se jeta à travers champs, et il entraînait à un ravin profond la cavalière imprudente, quand M. de Marsan, qui avait mis pied à terre, courut l'arrêter, mais le choc le renversa et il eut le bras cassé. Le caractère d'Emmeline, à dater de ce jour, parut entièrement changé. À sa gaieté succéda un air de distraction étrange. Madame Duval étant morte peu de temps après, la terre fut vendue, et on prétendit qu'à la maison du faubourg Saint-Honoré, la petite Duval soulevait régulièrement sa jalousie à l'heure où un beau garçon à cheval passait, allant aux Champs-Élysées. Quoi qu'il en soit, un an après, Emmeline déclara à sa famille ses intentions que rien ne put ébranler. Je n'ai pas besoin de vous parler du haro et de tout le tapage qu'on finit pour la convaincre. Après 6 mois de résistance opiniâtre, malgré tout ce qu'on put dire et faire, il fallut céder à la demoiselle et la faire comtesse de Marsan. Le mariage fait, la gaieté revint. Ce fut un spectacle assez curieux de voir une femme redevenir enfant après ses noces. Il semblait que la vie d'Emmeline eût été suspendue par son amour. Dès qu'il fut satisfait, elle reprit son cours comme un ruisseau à s'arrêter un instant. Ce n'était plus maintenant dans la chambrette obscure que se passaient les enfantillages journaliers, C'était à l'hôtel de Marsan, comme dans les salons les plus graves. Et vous imaginez quels effets il produisait. Le comte, sérieux et parfois sombre, gêné peut-être par sa position nouvelle, promenait assez tristement sa jeune femme qui riait de tout sans songer à rien. On s'étonna d'abord, on murmura ensuite, enfin on y fit comme à toute chose. La réputation de M. de Marsan n'était pas celle d'un homme à marier, mais était très bonne pour un mari. D'ailleurs, eût-on voulu être plus sévère, il n'était personne que n'eût désarmé la bienveillante gaieté d'Emmeline. L'oncle Duval avait eu soin d'annoncer que le contrat du côté de la fortune ne mettait pas sa nièce à la merci d'un maître. Le monde se contenta de cette confidence qu'on voulait bien lui faire, et pour ce qui avait précédé et amené le mariage, on en parla comme d'un caprice dont les bavards firent un roman. On se demandait pourtant tout bas quelle qualité extraordinaire avait pu séduire une riche héritière et la déterminer à ce coup de tête. Les gens que le hasard a maltraités ne se figurent pas aisément qu'on dispose ainsi de 2 millions sans quelque motif surnaturel. Ils ne savent pas que si la plupart des hommes tiennent avant tout à la richesse, une jeune fille ne se redoute quelquefois pas de ce que c'est que l'argent, surtout lorsqu'elle est née avec et qu'elle n'a pas vu son père le gagner. C'était précisément l'histoire d'Emmeline. Elle avait épousé M. de Marsan uniquement parce qu'il lui avait plu et qu'elle n'avait ni père ni mère pour la contrarier. Mais quant à la différence de fortune, elle n'y avait seulement même pas pensé. M. de Marsan l'avait séduite par les qualités extérieures qui annoncent l'homme, la beauté et la force. Il avait fait devant elle et pour elle seule l'action qui fait battre le cœur de la jeune fille. Et comme une gaieté habituelle s'allie quelquefois à une disposition romanesque, ce cœur sans expérience s'était exalté. Aussi la folle comtesse aimait-elle son mari à l'excès. Rien n'était beau pour elle que lui, et quand elle lui donnait le bras, rien ne valait la peine qu'elle tournât la tête. Pendant les 4 premières années après le mariage, on les vit très peu l'un et l'autre. Ils avaient loué une maison de campagne au bord de la Seine, près de Melun. Il y a dans cet endroit 2 ou 3 villages qui s'appellent le Mai, et comme apparemment la maison est bâtie à la place d'un ancien moulin, on l'appelle le moulin de Mai. C'est une habitation charmante, on y jouit d'une vue délicieuse. Une grande terrasse, plantée de tilleuls, domine la rive gauche du fleuve, et on descend du parc au bord de l'eau par une colline de verdure. Derrière la maison est une basse-cour d'une propreté et d'une élégance singulière, qui forme à elle seule un grand bâtiment au milieu duquel est une faisanderie. Un parc immense entoure la maison et va rejoindre le bois de la Rochette. Vous connaissez ce bois, madame? Vous souvenez-vous de l'allée des soupirs? Je n'ai jamais su d'où lui vient ce nom, mais j'ai toujours trouvé qu'elle le mérite. Lorsque le soleil donne sur l'étroite Charmille, et qu'en s'y promenant seul au frais pendant la chaleur du midi, on voit cette longue galerie s'étendre à mesure qu'on avance, on est inquiet et charmé de se trouver seul, et la rêverie vous prend malgré vous. Emmeline n'aimait pas cette allée. Elle la trouvait sentimentale et ses railleries du couvent lui revenaient quand on en parlait. La basse-cour, en revanche, faisait ses délices. Elle y passait 2 ou 3 heures par jour avec les enfants du fermier. Mais j'ai peur que mon héroïne ne vous semble niaise si je vous dis que, lorsqu'on venait la voir, on la trouvait quelquefois sur une meule, remuant une énorme fourche et les cheveux entremêlés de foin. Mais elle sautait à terre comme un oiseau, et avant que vous eussiez le temps de voir l'enfant gâté, la comtesse était près de vous et vous faisait les honneurs de chez elle avec une grâce qui fait tout pardonner. Si elle n'était pas dans la basse-cour, il fallait alors, pour la rencontrer, gagner au fond du parc un petit tertre vert au milieu des rochers. C'était un vrai désert d'enfants, comme celui de Rousseau à Ermenonville. Trois cailloux et une bruyère. Là, assise à l'ombre, elle chantait à haute voix en lisant les oraisons funèbres de Bossuet ou tout autre ouvrage aussi grave. Si là encore vous ne la trouviez pas, elle courait à cheval dans la vigne, forçant quelques rosses de la ferme à sauter les fossés, les échaliers, et se divertissant toute seule aux dépens de la pauvre bête avec un imperturbable sang-froid. Si vous ne la voyiez ni à la vigne, ni au désert, ni à la basse-cour, elle était probablement devant son piano, déchiffrant une partition nouvelle, la tête en avant, les yeux animés, les mains tremblantes. La lecture de la musique l'occupait tout entière, et elle palpitait d'espérance en pensant qu'elle allait découvrir un air, une phrase de son goût. Mais si le piano était muet comme le reste, vous aperceviez alors la maîtresse de la maison, assise ou plutôt accroupie, sur un coussin au coin de la cheminée, et tisonnant la pincette à la main. Ses yeux distraits cherchent dans les veines du marbre, de figures, des animaux, des paysages, mille aliments de rêverie, et perdue dans cette contemplation, elle se brûle le bout du pied avec sa pincette rougie au feu. Voilà de vraies folies, allez-vous dire. Ce n'est pas un roman que je fais, madame, et vous vous en apercevez bien. Comme, malgré ses folies, elle avait de l'esprit, il se trouva que, sans qu'elle y pensât, il s'était formé au bout de quelque temps un cercle de gens d'esprit autour d'elle. Monsieur de Marsan, en 1829, fut obligé d'aller en Allemagne pour une affaire de succession qui ne lui rapporta rien. Il ne voulut point emmener sa femme et la confia à la marquise d'Ennery, sa tante, qui vint loger au moulin de May. Madame d'Ennery était d'humeur mondaine. Elle avait été belle au beau jour de l'Empire et elle marchait avec une dignité folâtre, comme si elle eût traîné une robe à queue. Un vieil éventail à paillettes, qui ne la quittait pas, lui servait à se cacher à demi lorsqu'elle se permettait un propos grivois qui lui échappait volontiers. Mais la décence restait toujours à portée de sa main, et dès que l'éventail se baissait, les paupières de la dame en faisaient autant. Sa façon de voir et de parler étonna d'abord Emmeline à un point qu'on ne peut se figurer. Car avec son étourderie, Madame de Marsan était restée d'une innocence rare. Les récits plaisants de sa tante, la manière dont celle-ci envisageait le mariage, ses demi-sourires en parlant des autres, ses « hélas » en parlant d'elle-même, tout cela rendait Emmeline tantôt sérieuse et stupéfaite, tantôt folle de plaisir comme la lecture d'un conte de fées. Quand la vieille dame vit l'allée des soupirs, il va sans dire qu'elle l'aima beaucoup. La nièce y vint par complaisance. Ce fut là qu'à travers un déluge de sornettes, Emmeline entrevit le fond des choses, ce qui veut dire en bon français la façon de vivre des Parisiens. Elles se promenaient seules, toutes deux, un matin, et gagnaient en causant le bois de la Rochette. Madame d'Ennery essayait vainement de faire raconter à la comtesse l'histoire de ses amours. Elle la questionnait de cent manières sur ce qui s'était passé à Paris pendant l'année mystérieuse où Monsieur de Marsan faisait la cour à Mademoiselle Duval. Elle lui demandait, en riant, s'il y avait eu quelque rendez-vous, un baiser pris avant le contrat, enfin, comment la passion était venue. Emmeline, sur ce sujet, a été muette toute sa vie. Je me trompe peut-être, mais je crois que la raison de ce silence, c'est qu'elle ne peut parler de rien sans en plaisanter, et qu'elle ne veut pas plaisanter là-dessus. Bref, la douairière, voyant sa peine perdue, changea de thèse et demanda si, après 4 ans de mariage, cet amour étrange vivait encore. Mais comme il vivait au premier jour, répondit Emmeline, et comme il vivra mon dernier jour. Madame Nennery, à cette parole, s'arrêta et baisa majestueusement sa nièce sur le front. Cher enfant, dit-elle, tu mérites d'être heureuse, et le bonheur est fait à coup sûr pour l'homme qui est aimé de toi. Après cette phrase prononcée d'un ton emphatique, elle se redressa tout d'une pièce et ajouta en minaudant « Ah, je croyais pourtant que monsieur de Sorgue te faisait les yeux doux. » Monsieur de Sorgue était un jeune homme à la mode, grand amateur de chasse et de chevaux, qui venait souvent au moulin de Mai plutôt pour le comte que pour sa femme. Il était cependant assez vrai qu'il avait fait les yeux doux à la comtesse, car quel homme désœuvré à 12 lieues de Paris ne regarde une jolie femme quand il la rencontre? Emmeline ne s'était jamais guère occupée de lui, sinon pour veiller à ce qu'il ne manquât de rien chez elle. Il lui était indifférent, mais l'observation de sa tante le lui fit secrètement haïr malgré elle. Le hasard voulut qu'en rentrant du bois, elle vit précisément dans la cour une voiture qu'elle reconnut pour celle de monsieur de Sorgue. Il se présenta un instant après, témoignant le regret d'arriver trop tard de la campagne où il avait passé l'été et de ne plus trouver monsieur de Marsan. Soit étonnement, soit répugnance, Emmeline put cacher quelque émotion en le voyant. Elle rougit et il s'en aperçut. Comme monsieur de Sorgue était abonné à l'opéra et qu'il avait entretenu 2 ou 3 figurantes à 100 écus par mois, il se croyait homme à bonne fortune et obligé d'en soutenir le rôle. En allant dîner, il voulut savoir jusqu'à quel point il avait ébloui et serra la main de madame de Marsan. Elle frissonna de la tête aux pieds, tant l'impression lui fut nouvelle. Il n'en fallait pas tant pour rendre un fat ivre d'orgueil. Il fut décidé par la tante, 1 mois durant, que monsieur de Sorgue était l'adorateur. C'était un sujet intarissable d'antiques fadaises et de mots à double sens qu'Emmeline supportait avec peine, mais auquel un bonbon naturel la forçait de se plier. Dire par quel motif la vieille marquise trouvait l'adorateur aimable, par quels autres motifs il lui plaisait moins, c'est malheureusement ou heureusement une chose impossible à écrire et impossible à deviner. Mais on peut aisément supposer l'effet que produisait sur Emmeline de pareilles idées, accompagnées bien entendu d'exemples tirés de l'histoire moderne et de tous les principes des gens bien élevés qui font l'amour comme des maîtres de danse. Je crois que c'est dans un livre aussi dangereux que Les liaisons dont parle son titre que se trouve une remarque dont on ne connaît pas assez la profondeur. Rien ne corrompt plus vite une jeune femme, y est-il dit, que de croire corrompu ce qu'elle doit respecter. Les propos de madame Desmery éveillaient dans l'âme de sa nièce un sentiment d'une autre nature. « Mais qui suis-je donc, se disait-elle, si le monde est ainsi ?» La pensée de son mari, absent, la tourmentait. Elle aurait voulu le trouver près d'elle lorsqu'elle rêvait du coin du feu. Elle eût du moins pu le consulter, lui demander la vérité. Il devait la savoir, puisqu'il était homme, et elle sentait que la vérité dite par cette bouche ne pouvait pas être à craindre. Elle prit le parti d'écrire à monsieur de Marsan et de se plaindre de sa tante. Sa lettre était faite et cachetée, et elle se disposait à l'envoyer, quand, par une bizarrerie de son caractère, elle la jeta au feu en riant. « Je suis bien sotte de m'inquiéter, » se dit-elle avec sa gaieté habituelle. « Ne voilà-t-il pas un beau monsieur pour me faire peur avec ses yeux doux ?» Monsieur de Sorgue entrait au moment même. Apparemment que pendant sa route, il avait pris des résolutions extrêmes. Le fait est qu'il ferma brusquement la porte, et s'approchant d'Emmeline, sans lui dire un mot, il la saisit et l'embrassa. Elle resta muette d'étonnement, et pour toute réponse, tira sa sonnette. Monsieur de Sorgue, en sa qualité d'homme à bonne fortune, comprit aussitôt et se sauva. Il écrivit le soir même une grande lettre à la comtesse, et on ne le revit plus au moulin de Mai. Emmeline ne parla de son aventure à personne. Elle n'y vit qu'une leçon pour elle et un sujet de réflexion. Son humeur n'en fut pas altérée. Seulement, quand Madame d'Ennery, selon sa coutume, l'embrassait le soir avant de se retirer, un léger frisson faisait pâlir la comtesse. Bien loin de se plaindre de sa tante, comme elle l'avait d'abord résolu, elle ne chercha qu'à se rapprocher d'elle et à la faire parler davantage. La pensée du danger étant écartée par le départ de l'adorateur, il n'était resté dans la tête de la comtesse qu'une curiosité insatiable. La marquise avait eu, dans la force du terme, ce qu'on appelle une jeunesse orageuse. En avouant le tiers de la vérité, elle était déjà très divertissante, et avec sa nièce, après dîner, elle en avouait quelquefois la moitié. Il est vrai que tous les matins, elle se réveillait avec l'intention de ne plus rien dire et de reprendre tout ce qu'elle avait dit, mais ces anecdotes ressemblaient par malheur aux moutons de Panurge. À mesure que la journée avançait, les confidences se multipliaient, en sorte que quand minuit sonnait, il se trouvait quelquefois que l'aiguille semblait avoir compté le nombre des historiettes de la bonne dame. Enfoncée dans un grand fauteuil, Emmeline écoutait gravement. Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette gravité était troublée à chaque instant par un fou rire et les questions les plus plaisantes. À travers les scrupules et les réticences indispensables, Madame de Marsan déchiffrait sa tante comme un manuscrit précieux où il manque nombre de feuillets et que l'intelligence du lecteur doit remplacer. Le monde lui apparut sous un nouvel aspect. Elle vit que, pour faire mouvoir les marionnettes, il fallait connaître et saisir les fils. Elle prit dans cette pensée une indulgence pour les autres qu'elle a toujours conservée. Il semble en effet que rien ne la choque et personne n'est moins sévère qu'elle pour ses amis. Cela vient de ce que l'expérience l'a forcée à se regarder comme un être à part, et qu'en s'amusant innocemment des faiblesses d'autrui, elle a renoncé à les imiter. Ce fut alors que, de retour à Paris, elle devint cette comtesse de Marsan dont on a tant parlé et qui fut si vite à la mode. Ce n'était plus la petite Duval, ni la jeune mariée turbulente et presque toujours décoiffée. Une seule épreuve et sa volonté l'avaient subitement métamorphosée. C'était une femme de tête et de cœur, qui ne voulait ni amour ni conquête et qui, avec une sagesse reconnue, trouvait moyen de plaire partout. Il semblait qu'elle se fût dit « Puisque c'est ainsi, que va le monde ? Eh bien, nous le prendrons comme il est. » Elle avait deviné la vie, et pendant un an, vous vous en souvenez, il n'y eut pas de plaisir sans elle. On a cru et on a dit, oh je le sais, qu'un changement si extraordinaire n'avait pu être fait que par l'amour, et on a attribué à une passion nouvelle le nouvel éclat de la comtesse. On juge vite, et on se trompe si bien. Ce qui fit le charme d'Emmeline, ce fut son parti pris de n'attaquer personne et d'être elle-même inattaquable. S'il y a quelqu'un qui puisse s'appliquer ce mot charmant d'un de nos poètes, « Je vis par curiosité », c'est à Madame de Marsan. Ce mot-là résume tout entière. Monsieur de Marsan revint. Le peu de succès de son voyage ne l'avait pas mis de bonne humeur. Ses projets étaient renversés. La révolution de juillet vint par là-dessus et il perdit ses épaulettes. Fidèle au parti qu'il servait, il ne sortit plus que pour faire de rares visites dans le faubourg Saint-Germain. Au milieu de ces tristes circonstances, Emmeline tomba malade, sa santé délicate fut brisée par de longues souffrances et elle pensa mourir. Un an après, on la reconnaissait à peine. Son oncle l'emmena en Italie et ce ne fut qu'en 1832 qu'elle revint de Nice avec le digne homme. Je vous ai dit qu'il s'était formé un cercle autour d'elle. Elle le retrouva au retour. Mais, de vive et alerte qu'elle était, elle devint sédentaire. Il semblait que l'agilité de son corps l'eût quittée et ne fût restée que dans son esprit. Mais elle sortait rarement, comme son mari, et on ne passait guère le soir sous sa fenêtre sans voir la lumière de sa lampe. Là se rassemblaient quelques amis. Comme les gens d'élite se cherchent, l'hôtel de Marsan fut bientôt un lieu de réunion très agréable, que l'on n'abordait ni trop difficilement ni trop aisément, et qui eut le bon sens de ne pas devenir un bureau d'esprit. M. de Marsan, habitué à une vie plus agitée, s'ennuyait de ne savoir que faire. Les conversations et l'oisiveté n'avaient jamais été forts à son goût. On le vit d'abord plus rarement chez la comtesse, mais peu à peu on ne le vit plus. On a dit même que, fatigué de sa femme, il avait pris une maîtresse. Comme ce n'est pas prouvé, nous n'en parlerons pas. Cependant, Emmeline avait 25 ans et, sans se rendre compte de ce qui se passait en elle, elle sentait aussi l'ennui la gagner. La vallée du soupir lui revint en mémoire et la solitude l'inquiéta. Il lui semblait éprouver un désir et quand elle cherchait ce qui lui manquait, elle ne trouvait rien. Il ne lui venait pas la pensée qu'on pût aimer deux fois dans sa vie. Sous ce rapport, elle croyait avoir épuisé son cœur et M. de Marsan en était pour elle l'unique dépositaire. Lorsqu'elle entendait la main libérant, une crainte involontaire la saisissait. Rentrée chez elle et renfermée, elle passait quelquefois la nuit entière, chantait seule, et il arrivait que sur ses lèvres les notes devenaient convulsives. Elle crut que sa passion pour la musique suffirait pour la rendre heureuse. Elle avait une loge aux Italiens qu'elle fit tendre de soie comme un boudoir. Cette loge, décorée avec quelques amis, avec un soin extrême, fut pendant quelque temps l'objet constant de ses pensées. Elle en avait choisi l'étoffe, elle y fit porter une petite glace gothique qu'elle aimait. Ne sachant comment prolonger ce plaisir d'enfant, elle y ajoutait chaque jour quelque chose. Elle fit elle-même pour sa loge un petit tabouret en tapisserie qui était un chef-d'œuvre. Enfin, quand tout fut décidément achevé, quand il n'eut plus moyen de rien inventer, elle se trouva seule un soir dans son coin chéri, en face du Don Juan de Mozart. Elle ne regardait ni la salle ni le théâtre. Elle éprouvait une impatience irrésistible. Rubini, Madame Heinefetter et Mademoiselle Sondag chantaient le trio des masques que le public leur fit répéter. Perdue dans sa rêverie, Emmeline écoutait de toute son âme. Elle s'aperçut en revenant à elle qu'elle avait étendu le bras sur une chaise vide à ses côtés et qu'elle serrait fortement son mouchoir à défaut d'une main amie. Elle ne se demanda pas pourquoi M. de Marsan n'était pas là, mais elle se demanda pourquoi elle y était seule. Et cette réflexion la troubla. Elle trouva, en rentrant, son mari dans le salon, jouant aux échecs avec un de ses amis. Elle s'assit à quelque distance, et presque malgré elle, regarda le comte. Elle suivait les mouvements de cette noble figure qu'elle avait vue si belle à 18 ans lorsqu'il s'était jeté au devant de son cheval. Monsieur de Marsan perdait et ses sourcils froncés ne lui prêtait pas une expression gracieuse. Il sourit tout à coup, la fortune tournait de son côté et ses yeux brillèrent. « Vous aimez donc beaucoup ce jeu ?» demanda Emmeline en souriant. « Comme la musique pour passer le temps, » répondit le comte. Et il continua sans regarder sa femme. « Passer le temps ?» se répéta tout bas Madame de Marsan dans sa chambre au moment de se mettre au lit. Ce mot l'empêchait de dormir. « Il est beau, il est brave, » se disait-elle, « il m'aime. » Cependant, son cœur battait avec violence. Elle écoutait le bruit de la pendule et la vibration monotone du balancier lui était insupportable. Elle se leva pour l'arrêter. « Mais que fais-je » demanda-t-elle. « Arrêterai-je l'heure et le temps en forçant cette petite horloge à se taire ?» Les yeux fixés sur la pendule, elle se livra à des pensées qui ne lui étaient pas encore revenues. Elle songea au passé, à l'avenir, à la rapidité de la vie. Elle se demanda pourquoi nous sommes sur terre, ce que nous y faisons, ce qui nous y attend après. En cherchant dans son cœur, elle n'y trouva qu'un jour où elle eût vécu, celui où elle avait senti qu'elle aimait. Le reste lui sembla un rêve confus, une succession de journées uniformes comme le mouvement du balancier. Elle posa sa main sur son front et sentit un besoin invincible de vivre. Dirais-je de souffrir, oh, peut-être. Elle eût préféré en cet instant la souffrance à sa tristesse. Elle se dit qu'à tout prix, elle voulait changer son existence. Elle fit 100 projets de voyage et aucun pays ne lui plaisait. Mais qu'irait-elle chercher? L'inutilité de ses désirs, l'incertitude qui l'accablait, l'effrayèrent. Elle crut avoir eu un moment de folie. Elle courut à son piano et voulut jouer son trio des masques, mais aux premiers accords, elle fondit en larmes et resta pensive et découragée. Parmi les habitués de l'hôtel de Marsan se trouvait un jeune homme nommé Gilbert. « Je sens, madame, qu'en vous parlant de lui, je touche ici à un point délicat et je ne sais trop comment je m'en tirerai. » Il venait depuis 6 mois, une ou deux fois par semaine, chez la comtesse, et ce qu'il ressentait près d'elle ne doit peut-être pas s'appeler de l'amour. Quoi qu'on en dise, l'amour, c'est l'espérance. Et telle que ses amis la connaissaient, si Emmeline inspirait des désirs, sa conduite et son caractère n'étaient pas faits pour les enhardir. Jamais, en présence de Madame de Marsan, Gilbert ne s'était adressé de questions de ce genre. Elle lui plaisait par sa conversation, par ses manières de voir, par ses goûts, par son esprit, et par un peu de malice qui est le hochet de l'esprit. Éloigné d'elle, un regard, un sourire, quelques beautés secrètes entrevues, que sais-je, enfin, 1000 souvenirs, s'emparaient de lui et le poursuivaient incessamment, comme ces fragments de mélodie dont on ne peut pas se débarrasser à la suite d'une soirée musicale. Mais dès qu'il la voyait, il retrouvait le calme, et la facilité qu'il avait de la voir, souvent, l'empêchait peut-être de souhaiter davantage. Car ce n'est quelquefois qu'en perdant ce qu'on aime qu'on sent combien on les aimait. En allant le soir chez Emmeline, on la trouvait presque toujours entourée. Gilbert n'arrivait guère que vers 10 heures, au moment où il y avait le plus de monde, et personne ne restait le dernier. On sortait ensemble à minuit, quelquefois plus tard, si c'était trouvé une histoire amusante en train. Il en résultait que depuis 6 mois, malgré son assiduité chez la comtesse, Gilbert n'avait point eu de tête à tête avec elle. Il la connaissait cependant très bien et peut-être mieux que de plus intime, soit par une pénétration naturelle, soit par un autre motif, qu'il faut vous dire aussi. Il aimait la musique autant qu'elle. Et comme un goût dominant explique bien des choses, C'était par là qu'il la devinait. Il y avait telle phrase d'une romance, tel passage d'un air italien, qui était pour lui la clé d'un trésor. L'air achevé, il regardait Emmeline, et il était rare qu'il ne rencontrât pas ses yeux. S'agissait-il d'un livre nouveau ou d'une pièce représentée la veille? Si l'un d'eux en disait son avis, l'autre approuvait d'un signe de tête. À une anecdote, il leur arrivait de rire au même endroit. Et le récit touchant d'une belle action leur faisait détourner les regards en même temps, de peur de trahir l'émotion trop vive. Pour tout exprimer par un bon vieux mot, il y avait entre eux sympathie. Mais, direz-vous, c'est de l'amour. Patience, madame, pas encore. Gilbert allait au bout, fait passer quelquefois un acte dans la loge de la comtesse. Le hasard fit qu'à de ces jours-là, on donna encore Don Juan. Monsieur de Marsan y était. Emmeline, lorsque vint le trio, ne put s'empêcher de regarder à côté d'elle et de se souvenir de son mouchoir. C'était cette fois le tour de Gilbert de rêver au son des basses et de la mélancolique harmonie. Toute son âme était sur les lèvres de Mademoiselle Sontag, et qui n'eût pas senti comme lui aurait pu le croire amoureux fou de la charmante cantatrice. Les yeux du jeune homme étincelaient. Sur son visage un peu pâle, ombragé de longs cheveux noirs, on lisait le plaisir qu'il éprouvait. Ses lèvres étaient entr'ouvertes et sa main tremblante frappait légèrement la mesure sur le velours de la balustrade. Emmeline sourit, et en ce moment, je suis forcé de l'avouer, en ce moment, assis au fond de la loge, le comte dormait profondément. Tant d'obstacles s'opposent ici-bas à des hasards de cette espèce que ce ne sont que des rencontres. Mais par cela même, il frappe davantage et laisse un plus long souvenir. Gilbert ne se douta même pas de la pensée secrète d'Emmeline et de la compassion qu'elle avait pu faire. Il y avait pourtant de certains jours où il se demandait au fond du cœur si la comtesse était heureuse. En se le demandant, il ne le croyait pas. Mais dès qu'il y pensait, il n'en savait plus rien. Voyant à peu près les mêmes gens et vivant dans le même monde, ils avaient tous deux nécessairement mis l'occasion de s'écrire pour des motifs légers. Ces billets indifférents, soumis aux lois de la cérémonie, trouvaient toujours moyen de renfermer un mot, une pensée qui donnait à rêver. Gilbert restait souvent une matinée avec une lettre de Madame de Marsan et couverte sur la table. Et malgré lui, de temps en temps, il y jetait les yeux. Son imagination excitée lui faisait chercher un sens particulier aux choses les plus insignifiantes. Emmeline signait quelquefois en italien « Vostrissima ». Et il avait beau n'y voir qu'une formule amicale, il se répétait que ce mot voulait pourtant dire « tout à vous ». Sans être un homme à bonne fortune comme M. de Sorgues, Gilbert avait eu des maîtresses. Il était loin de professer pour les femmes cette apparence de mépris précoce que les jeunes gens prennent pour une mode. Mais il avait sa façon de penser, et je ne vous l'expliquerai pas autrement qu'en vous disant que la comtesse de Marsan lui paraissait une exception. Assurément, bien les femmes sont sages. Oh, je me trompe, madame, elles le sont toutes. Mais il y a manière de l'être. Emmeline, à son âge, riche, jolie, un peu triste, exaltée sur certains points, insouciante à l'excès sur d'autres, environnée de la meilleure compagnie, pleine de talent, aimant le plaisir, tout cela semblait au jeune homme d'étranges éléments de sagesse. Elle est belle pourtant, se disait-il, tandis que par les douces soirées d'août, il se promenait sur le boulevard italien. Elle aime son mari, sans doute, mais ce n'est que de l'amitié. L'amour est passé. Vivra-t-elle sans amour? Tout en y pensant, il fit réflexion que depuis 6 mois, lui, il vivait sans maîtresse. Un jour qu'il était en visite, il passa devant la porte de l'hôtel de Marsan et y frappa contre sa coutume, attendu qu'il n'était que 3 heures. Il espérait trouver la comtesse seule et il s'étonnait que l'idée de cet heureux hasard lui vînt pour la première fois. On lui répondit qu'elle était sortie. Il reprit le chemin de son logis de mauvaise humeur et, comme c'était son habitude, il parlait seul entre ses dents. Bon, je n'ai que faire de vous dire à quoi il songeait. Ses distractions l'entraînèrent peu à peu et il s'écarta de sa route. Ce fut, je crois, au coin du carrefour Bussy qu'il heurta assez rudement un passant et d'une manière au moins bizarre, car il se trouva tout à coup face à face avec un visage inconnu à qui il venait de dire tout bas « Si je vous le disais pourtant que je vous aime ?» Il s'esquivait honteux de sa folie, dont il ne pouvait s'empêcher de rire, lorsqu'il s'aperçut que son apostrophe ridicule faisait un vers assez bien tourné. Il en avait fait quelques-uns du temps qu'il était au collège. Il lui prit fantaisie de chercher la rime, et il la trouva, comme vous allez voir. Le lendemain était un samedi, jour de réception de la comtesse. Monsieur de Marsan commençait à se relâcher de ses résolutions solitaires, et il y avait grande foule ce jour-là. Les lustres allumés, toutes les portes ouvertes, cercle énorme à la cheminée, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, ce n'était pas un lieu habillé doux. Gilbert s'approcha, non sans peine, de la maîtresse de la maison. Après avoir causé de choses indifférentes avec elle et ses voisines un quart d'heure, il tira de sa poche un papier plié qu'il s'amusait à chiffonner. Comme ce papier, tout chiffonné qu'il était, avait pourtant un air de lettre, il s'attendait qu'on le remarquerait. Quelqu'un le remarqua, en effet, mais ce ne fut pas Emmeline. Il le remit dans sa poche, puis l'en tira de nouveau. Enfin, la comtesse y jeta les yeux et lui demanda ce qu'il tenait. « Ben, ce sont, lui dit-il, des vers de ma façon que j'ai fait pour une belle dame. Je vous les montrerai si vous me promettiez que, dans le cas où vous le vénériez, qui sait, vous ne nuiriez pas dans son esprit. » Emmeline prit le papier et lut l'estampe suivante. « À Ninon. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez ? L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. C'est un mal sans pitié que vous plaignez vous-même. Peut-être cependant que vous m'en puniriez. Si je vous le disais que 6 mois de silence cachent de longs tourments et des vœux insensés, Ninon, vous êtes fine et votre insouciance se plaît comme une fée à deviner d'avance. Vous me répondriez peut-être, je le sais. Si je vous le disais, qu'une douce folie a fait de moi votre ombre et m'attache à vos pas. Un petit air de doute et de mélancolie, vous le savez, Ninon, vous rend bien plus jolie. Peut-être diriez-vous que vous n'y croyez pas. Si je vous le disais, que j'emporte dans l'âme jusqu'au moindre mot de nos propos du soir. Un regard offensé, vous le savez, madame, change 2 yeux d'azur en 2 éclairs de flamme. Vous me défendriez peut-être de vous voir. Si je vous le disais que chaque nuit je veille, que chaque jour je pleure et je prie à genoux. Ninon, quand vous riez, vous savez qu'une abeille prendrait pour une fleur votre bouche vermeille. Si je vous le disais, peut-être en ririez-vous. Mais vous n'en saurez rien. Je viens, sans en rien dire, m'asseoir sous votre lampe et causer avec vous. Votre voix, je l'entends, votre air, je le respire. Et vous pouvez douter, deviner, sourire. Vos yeux ne verront pas de quoi m'être moins doux. Je récolte en secret des fleurs mystérieuses. Le soir, derrière vous, j'écoute au piano chanter sur le clavier vos mains harmonieuses. Et dans les tourbillons de vos valses joyeuses, je vous sens dans mes bras plié comme un roseau. La nuit, quand de si loin le monde nous sépare, quand je rentre chez moi pour tirer mes verrous, de mille souvenirs en jaloux je m'empare, et là, seul devant Dieu, plein d'une joie avare, j'ouvre comme un trésor mon cœur tout plein de vous. J'aime, et je sais répondre avec indifférence. J'aime, et rien ne le dit. J'aime, et seul je le sais, et mon secret m'est cher, et chère ma souffrance. Et j'ai fait le serment d'aimer sans espérance, mais non pas sans bonheur. Je vous vois, c'est assez. Non, je n'étais pas né pour ce bonheur suprême, de mourir dans vos bras et de vivre à vos pieds. Tout me le prouve, hélas, jusqu'à ma douleur même. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez? Lorsqu'Emmeline eut achevé sa lecture, elle rendit le papier à Gilbert sans rien dire. Un peu après, elle lui redemanda, relut une seconde fois, puis garda le papier à la main d'un air indifférent, comme il avait fait tout à l'heure, et quelqu'un s'étant approché, elle se leva et oublia de rendre les vers.